2022, les voix des femmes iraniennes s'élevaient après la mort de Mahsa Amini, décédée en garde à vue à l'âge de 22 ans pour avoir soi-disant enfreint la loi sur le port obligatoire du hijab. 3 ans après le mouvement Femmes, Vie, Liberté, la rue reprenait ses droits le 28 décembre dernier avec le début des manifestations contre la vie chère. Mais les aspirations plus larges au changement et à la volonté de tourner la page de la République islamique ont cédé rapidement la place à la peur, après que les manifestations aient été réprimées dans le sang. La rue au prix du sang, on en parle et on parle de la situation en Iran avec Sahar et Agathe dans cette lorgnette d'aujourd'hui. À toutes, chers auditeurs et auditrices de Studio Zef, vous êtes bien dans la lorgnette sur le 91.1 et le 91.7 et j'ai le plaisir de co-animer cette émission ce soir avec Mathilde. Salut Mathilde.
Salut Clémentine.
On parle donc de la situation tragique en Iran ce soir avec Sahar. Sahar, on t'avait déjà reçu il y a trois ans,
oui.
C'est ça, pour évoquer Femmes, Vie, Liberté. Tu es accompagnée ce soir d'Agathe. Je vous laisse chacune vous représenter à nos auditeurs et auditrices.
Eh ben bonjour, moi je suis très contente d'être dans cette lorgnette. Je suis arrivée il y a 1 an et demi dans la région. J'habite un petit village près de Blois. Et avec mon mari qui est iranien, on est venu s'installer ici parce qu'on a le projet de créer une distillerie pour produire des spiritueux sur des recettes iraniennes et faire vivre une culture, des traditions qui pour l'instant sont interdites en Iran.
Et Sahar ?
Et moi, de nouveau moi. Je vis à Blois depuis 6-7 ans maintenant. Je travaille à Blois et puis j'ai le plaisir de revenir et répondre à vos questions. Et puis je vous remercie de nous permettre d'exprimer un petit peu la voix de mes compatriotes qui sont en Iran et qui ne peuvent pas facilement s'exprimer. Et nous, on sent la responsabilité de porter leur voix ici à l'extérieur. Et donc, merci.
Est-ce que tu pourrais nous rappeler aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, quelle est la situation en Iran ? On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais c'est vrai que maintenant, dans les médias, on en entend malheureusement moins parler. Mm-hmm. Quelles sont tes informations là-dessus ?
Alors, les informations arrivent à compte-gouttes, parfois par la famille qui a un petit peu peur de s'exprimer ouvertement. Souvent, c'est par écrit, par des amis, par les soignants, parce que je fais partie aussi du cadre de santé, donc j'ai quand même pas mal d'amis soignants qui se permettent de m'envoyer des messages qui sont désastreux, si vous voulez. La répression continue. Les médecins ont toujours l'interdiction de soigner des blessés. Il reste encore énormément de blessés en Iran, des personnes qui sont dans des situations désastreuses, si vous voulez, de douleurs, d'infections, manque de médicaments. Certains ont encore des balles dans le corps et qui sont gardés dans leur maison parce qu'on ne peut pas les emmener dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de médecins qui bravent quand même cette interdiction et qui se déplacent chez les habitants et ils essayent de les soigner, mais malheureusement ils risquent leur vie. Donc nous avons eu quand même pas mal de médecins qui ont été tués tout simplement par le régime des Mollahs parce qu'ils se sont permis de soigner des blessés. Sinon, ce qui est très très compliqué, c'est le coût de la vie quotidienne qui est tellement élevée que pour acheter les aliments de base, la plupart des gens ont énormément de difficultés. Et cette attente interminable. Là, je discutais avec une amie qui me disait chaque jour nous semble une année. Du matin au soir, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que quelque chose va changer? Est-ce qu'il va y avoir une intervention extérieure pour nous aider? Les gens se sentent désarmés. Et puis énormément de colère, beaucoup, beaucoup de colère qui se mêle par-ci, par-là avec le désespoir. Un coup, c'est de l'espoir, on va y arriver. Et puis un coup, le désespoir. Au cours de la même journée, je peux avoir deux messages de la même personne dans la matinée, triste, rempli de désespoir, et dans la soirée, rempli de rage et d'espoir. Donc voilà, c'est un petit peu la situation en Iran.
En parlant de communication, début janvier, il y a eu un grand blackout national qui a duré plusieurs jours. Aujourd'hui, les communications, elles sont revenues à la normale, pas totalement?
Non, pas totalement. Il y a des moments de la journée, c'est-à-dire très tôt le matin ou au milieu de la nuit, on arrive à se contacter, mais on ne peut pas s'appeler comme avant. Internet est coupé par-ci, par-là. Il y a des quartiers qui ont un petit peu d'Internet pendant une heure ou deux heures, et puis après, ça se recoupe.
Donc ça continue toujours. Enfin, oui. C'est important de le notifier.
Les gens doivent brancher leur VPN pour arriver à se connecter sur WhatsApp le temps que ça marche. Et voilà, c'est pas du tout des communications faciles, loin de là. Plus la possibilité évidemment d'être sur écoute. Donc même si la communication est ouverte, vous savez pas vraiment quelles seront les conséquences en fait.
Agathe, tu partages la vie d'un Iranien, donc tu vis un peu les événements par procuration. Comment lui vit ce nouveau mouvement de révolte et cette répression sanglante?
Lui, en fait, a toute sa famille à Téhéran, donc il est le seul à être parti il y a une petite vingtaine d'années. Il était en Italie et on a quitté l'Italie pour vivre ici. Entre-temps, il est devenu papa, on a eu un petit bébé il y a 10 mois. Donc qui est franco-iranien, mais qui, en tout cas, mon mari n'a pas pu présenter son enfant, on n'a pas pu aller en Iran. Donc je pense qu'il a découvert, entre guillemets, ce rôle de papa loin des proches. Après, ce qu'il voit beaucoup, c'est qu'il y a une accélération des crises politiques et vraiment des mouvements populaires, de manifestations depuis qu'il a quitté le pays. Il voit bien que les choses s'accélèrent, donc il a bon espoir que le régime finisse par tomber. Mais après, vu de l'extérieur, et je suis désolée de parler un peu en son nom, mais il m'a demandé parce qu'il ne maîtrise pas parfaitement le français encore. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'extérieur, comme tu disais, Sarah, quel rôle il peut jouer, participer à des manifestations, tout en constatant que, comme tu le disais, on parle un petit peu moins de l'Iran dans les médias. Il y a tellement de crises en cours que c'est compréhensible. Mais ce qui l'alerte énormément, en fait, c'est cette espèce de fossé d'incompréhension entre... la population française, même les gens qui sont très informés, très ouverts, très internationaux, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe en Iran. Et il y a plein de malentendus, malheureusement, qui, lui, le font très souffrir, parce que sa priorité pour lui, c'est vraiment retourner à une démocratie et à une liberté politique, une liberté d'expression. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est très fort, très, 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 très fort. Donc pour lui, c'est vivre tout ça à distance. Et essayer de contribuer modestement et en même temps, la vie continue. Donc nous, on a notre projet de distillerie parce que c'est un projet sur lequel on a la main, on contrôle. Et puis c'est faire vivre des traditions qui sont interdites là-bas et en attendant que les choses peut-être s'ouvrent dans quelques temps.
Est-ce qu'on peut rappeler comment sont nées, quelle est la genèse des manifestations qui ont commencé? D'où c'est parti et quel était le motif premier à la base?
Les manifestations ont commencé dans le bazar de Téhéran. Le bazar, c'est le grand marché, le cœur économique du pays, si vous voulez. Et donc, traditionnellement, le bazar est très, très, très fidèle au gouvernement. Et ce qui était étrange et qui nous a donné énormément d'espoir, c'est que justement, les manifestations commencent à cet endroit-là. Et puis, donc évidemment, l'étincelle est partie du coût élevé de la vie, l'inflation qui change tous les jours, c'est-à-dire que nous n'avons pas une inflation sur l'année, c'est une inflation qui se calcule sur la journée entre aujourd'hui et demain. Le coût des aliments de base peut changer. Or, ce qui est très intéressant, c'est que dès le premier jour, dans le marché, dans ce grand marché, dans ce grand bazar, vous entendez aussi le nom de Pas à la vie. C'est-à-dire que nous avons vraiment franchi l'étape d'amélioration du système en place et nous demandons un changement total de régime, avec l'espoir sur le prince héritier Reza Pahlavi qui vit en exil forcé, évidemment, depuis 47 ans. Et ça, c'était vraiment la particularité de ces manifestations cette fois-ci.
Tu évoques donc la révolution de 79, Pahlavi et la monarchie. Est-ce que tu peux remettre un peu en contexte le tout pour les gens qui ne connaîtraient pas forcément l'histoire iranienne et cette révolution, qu'est-ce qu'elle a engendré?
Alors, effectivement, dans les années 70, le monde est touché par tous ces mouvements de l'extrême gauche, si vous voulez, tous les partis politiques et le communisme et tout ça. Je vais utiliser le terme était à la mode, mais je pense que c'était vraiment un peu à la mode parce que l'Iran n'est pas le seul victime de ces mouvements, de ces mouvements de pensée, si vous voulez, ou ces idéologies, parce qu'il y a d'autres pays, il y a le Cambodge, il y en a d'autres, il y a eu beaucoup d'autres victimes. Et donc, dans ces années-là, les intellectuels iraniens qui étaient venus pour étudier en Europe ont été profondément touchés par le marxisme. Et le communisme. Et donc, ils ont décidé de faire tomber le roi d'Iran. Parce que, par principe, un roi, c'est un roi. Et donc, un roi est un dictateur et il faut le faire tomber. À ce moment-là, il y avait Ayatollah Khomeini, qui était aussi en exil en France, à Neuf-le-Château. Et donc, ils se sont regroupés, si vous voulez. Ils se sont unis contre le roi d'Iran. Et en très peu de temps, ils ont donc monté une révolution. Et l'ancien roi, qui ne voulait pas faire la même tuerie que les mollahs aujourd'hui au pouvoir, a décidé au bout de quelques mois de quitter l'Iran et de laisser le peuple choisir son destin. Donc c'est comme ça que la famille royale a quitté l'Iran vers les États-Unis, ensuite l'Égypte, enfin vers l'Égypte et après vers les États-Unis. Parce qu'Anwar Sadat était le seul ami du roi d'Iran à l'époque qui acceptait cette famille en Égypte. Et donc, depuis, Ayatollah Khomeini est arrivé en Iran en février 1979 et il a pris le pouvoir et il a demandé, soi-disant, aux gens de voter pour la République islamique, oui ou non. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il y a la République islamique, on vote oui ou non. Et selon les dires de ma propre maman, à 10h du matin, quand elle est allée voter dans son ancien lycée, elle ne pouvait pas voter non. Donc ils ont changé deux ou trois fois de bureau de vote. Et puis partout, on leur proposait des liasses de 5 ou 6 votes sur lesquels c'était écrit oui pour mettre dans les urnes. Et puis un point, c'est tout. Donc c'est comme ça que la République islamique a été votée à 98% cette année-là. Et a pris le pouvoir absolu.
Et depuis, c'est donc le régime des mollahs et les gardiens de la révolution qui sont cette milice en parallèle de l'armée régulière. Moi, je me posais la question de quel est le rôle de l'armée régulière iranienne dans la répression. Est-ce que la répression, c'est vraiment les gardiens de la révolution qui la portent seulement, et l'armée régulière, quel est son rôle là-dedans?
Alors, si vous voulez, l'armée régulière n'a pas autant de pouvoir que l'armée traditionnelle dans tous les autres pays. En théorie, nous devons avoir l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée de mer qui sont les seuls, le corps armé d'un pays. C'est vraiment ces trois armées. En Iran, connaissant la fidélité de l'armée en partie encore au roi d'Iran, à l'ancien roi, les mollahs ont décidé de monter le corps des gardiens de la République, qui sont garants de garder la République islamique coûte que coûte. Et au fur et à mesure des années qui ont passé, les grosses têtes de l'armée régulière ont été changées aussi, ont été choisies parmi les gardiens de la République, si vous voulez. Et donc l'armée n'a pas énormément de pouvoir en Iran. Par contre, tout le pouvoir, en partie même économique, est dans la main des gardiens de la République. C'est eux qui sont propriétaires des banques, c'est eux qui décident de la vie du marché, de la bourse, c'est eux qui ont des œuvres caritatives, si vous voulez, enfin soi-disant caritatives, et c'est eux qui ont tout le mafia corrompu du pays entre leurs mains.
Tu utilises le terme gardien de la République et nous plutôt gardien de la Révolution. Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a
un gardien de la République islamique,
ouais,
si vous voulez,
c'est la même chose que les gardiens de la Révolution.
Nous, ouais.
Ok.
On évoquait les manifestations de 2023 Femmes, Vie, Liberté. Et du coup, donc les nouvelles manifestations, depuis début décembre. En quoi elles sont différentes, ces manifestations? Est-ce que l'ampleur, elle est plus grande? Les conséquences aussi?
Oui, l'ampleur est beaucoup plus grande. À l'époque, la manifestation a été tout de suite, considérée comme une manifestation féministe. C'est tellement vrai aussi, c'était pour la première fois où, surtout dans un pays musulman, les femmes sortaient pour défendre leurs droits et surtout le droit de ne pas mettre le voile islamique. Tout de suite, dans la foulée, elles ont été soutenues par les hommes. C'était très très touchant, très... je trouve pas le mot, mais c'est devenu une révolution sociale, culturelle, si vous voulez. Mais cette fois-ci, il y a une union autour, surtout d'une figure à l'exil, qui est à la tête de l'opposition contre la République islamique. Je pense que jusqu'en 2023, il y avait encore l'espoir éventuel qu'il y ait un changement à l'intérieur du régime, c'est-à-dire une amélioration. Quelqu'un à l'intérieur de l'Iran qui pourrait changer la situation, changer le président de la République. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la totalité du régime qui est remise en question. Est-ce que, Agathe, tu es d'accord? Comment tu le vois, toi?
Non, je pense que oui, effectivement, là, ce qui a été très difficile, je pense, pour les médias français, ça a été de reconnaître qu'il y a, oui, certes, une diversité dans l'opposition politique iranienne, notamment au sein de la diaspora iranienne. Mais ce qui était difficile à voir dans les médias, c'était juste de reconnaître qu'en fait, il y avait beaucoup d'appels autour de ce leader qui est Reza Pahlavi, qui n'est pas l'unique leader, mais qui est en tout cas la personne qui a été appelée, pas par une ou deux ou trois personnes, mais par vraiment énormément de monde. Et ça, en fait, je pense que ça a été très compliqué de le percevoir, en tout cas du point de vue des Français, et moi aussi, hein, parce qu'on a une tradition... la monarchie, ça n'existe plus, et c'est très bien. Et on est sur une république, on est sur autre chose. En fait, ce qu'il faut voir, c'est peut-être ma petite analyse, c'est que là, on a tout un peuple. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. C'est toute une sphère culturelle. Hein. Il y a les Iraniens, mais il y a aussi tout autour les gens qui parlent le persan, parce que c'est pas un pays arabe. Ouais. Voilà. Il y a tous les gens de la sphère culturelle qui ont envie de renouer avec une fierté culturelle et une identité qui a été complètement mise de côté, en fait, depuis la révolution, parce que c'est une révolution d'extrémistes religieux pour qui l'Iran n'a aucune signification, en fait. C'est comme si on vous disait, voilà, la France, ça n'existe pas. Donc, il y a aussi une envie pour beaucoup de ces manifestants de renouer avec une tradition culturelle qui est monarchique et un leader qui est Reza Pahlavi aux États-Unis. Aussi parce qu'il y a cette envie de refaire vivre une identité, une culture qui n'est pas une culture religieuse, qui est une culture linguistique, qui est une culture, une civilisation. Notre enfant, par exemple, il s'appelle Pierre et il s'appelle Darius, parce que Darius, c'est un des très grands rois de Perse, et c'était bien avant l'islam. Voilà. Donc en fait, c'est une histoire extrêmement riche, et être monarchique ou appeler un leader, un héritier monarchique dans ce contexte-là, c'est pas vouloir un système autocratique ou autoritaire, c'est juste un régime de monarchie constitutionnelle, par exemple, comme il y en a en Angleterre, dans plein de pays démocratiques, mais c'est une culture forte, historique, qui permet aussi à une nation de vivre et d'exister dans le concert des nations.
Exactement.
Ce mouvement, du coup, d'opposition... avec Pahlavi à sa tête, il est présent depuis longtemps ou pas? Parce que, enfin, tu le dis, en tant que Française, on n'entendait pas parler, on connaissait pas ce nom avant. Là, on a un peu l'impression qu'il sort de nulle part et qu'il revient comme ça. L'opposition, elle était quand même là depuis des années, mais oui, à petite échelle. Et c'est vraiment avec les manifestations du Grand Bazar où tout est sorti.
Alors cette opposition existe depuis même le début de cette révolution islamique. Depuis que la famille royale a quitté l'Iran, il y a quand même un noyau dur autour de cette famille. Et Reza Pahlavi, si vous voulez, ça fait 47 ans qu'il a consacré sa vie à la vie politique. C'est-à-dire que vous pouvez tout chercher et vous allez trouver énormément d'interviews avec des radios, avec des télés, partout dans le monde, dans plusieurs langues, en anglais, en français, sur la situation en Iran. Il y a une quinzaine d'années de ça, quand les gens sont sortis par millions au moment des votes de Milosen Mousavi, le prince héritier, c'était parmi les premiers à mettre le bracelet vert pour montrer sa solidarité avec les Iraniens. Ce qui démontre aussi qu'il n'est pas là pour avoir le pouvoir, devenir le roi d'Iran dès le lendemain de son arrivée. D'ailleurs, il a dit plusieurs fois depuis des années, que son combat, c'est pour libérer l'Iran et ce n'est pas pour arriver au pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, ça sera aux urnes et c'est les Iraniens qui vont choisir leur forme de régime, que ce soit une république ou royauté. Mais en tout cas, lui, d'ailleurs, personnellement, il a une préférence pour une république, pour cette forme de gouvernement.
Oui, il se présente plutôt comme comme dans un rôle de transition.
Exactement.
Il était au JT de TF1 il y a quelques jours.
Et tout à fait, avant-hier soir, oui.
Mais c'est un peu... je sais que c'est compliqué, et peut-être que ma comparaison est très mauvaise, hein, mais c'est vrai que bon, il y a une figure assez... consensuel en France aujourd'hui, c'est Charles de Gaulle. Il y a 20 ans, les gaullistes, ils étaient une minorité. Enfin, voilà, maintenant, tout le monde est gaulliste, tout le monde parle de Charles de Gaulle comme une référence qui fait consensus. Voilà, c'est vraiment cette idée en temps de crise, vous avez quelqu'un qui croit dans le pays, qui incarne quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui le dépasse, lui, parce que voilà, Charles de Gaulle, c'était loin d'être un homme parfait, exemplaire, mais qui propose, un temps donné, de porter une transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un régime s'écroule, on le voit tous dans plein de pays, hein. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui se fait avec des pétales de rose. Par contre, incarner l'espoir d'un peuple, c'est extrêmement important, parce que quand vous avez des pays qui n'ont pas cette figure, et c'était peut-être le cas de l'Iran, c'est qu'en fait, cette figure, elle a pris vraiment une importance très forte, plutôt récemment, même s'il y avait ce noyau traditionnel. Mmh. Aujourd'hui, on n'est pas monarchiste quand on soutient Reza Pahlavi. On est, je dirais, fier de son pays, on est fier de l'Iran, et on a envie d'un retour à la démocratie et au respect d'une culture qui a été mise sous silence. Avant 79, l'Iran, c'était l'endroit où vous aviez envie de partir en vacances. C'était l'endroit où vous aviez envie de... Voilà, vous alliez à Katmandou et avant, vous faisiez une pause à Téhéran parce que c'était magnifique, c'était l'Orient, c'était Isfahan, c'était toute la culture de la poésie, de la musique. C'était un pays moderne, c'était un pays en pleine ouverture. Énormément d'étudiants partaient à l'étranger faire leurs études, à Oxford, à Harvard, etc. C'est un pays hyper moderne. Aujourd'hui, le pays, il n'est plus dans le concert des nations depuis 47 ans. Donc les gens, ils veulent un leader qui va les amener de manière pacifique aux urnes en disant, bah voilà, une fois qu'on sera aux urnes, vous avez la possibilité de choisir votre régime, de choisir vos dirigeants. C'est quand même la moindre des choses. Mais en l'absence de leader... On peut éterniser les discussions autour de voilà, comment ça va se passer, là, mais il ne va rien se passer en fait. Il ne va rien se passer et aussi sans peut-être une aide aussi extérieure.
Je vais me faire un peu l'avocate du diable, mais si le chat est tombé et la monarchie est tombée, c'est qu'il y avait bien quand même des raisons à ce que la monarchie tombe. Et voilà, remettre au pouvoir, faire confiance à un homme qui a quitté le pays pendant 50 ans.
Alors c'est pas le même homme.
Le fils du chat, oui.
Alors tout d'abord, comme dit Agathe, ce n'est pas le même homme. Et deuxièmement, le monde, l'histoire connaît énormément de leaders politiques qui ont été exilés. Rarement, ces personnes-là sont restées sur place parce que c'est impossible. Ils retournent en Iran, ils seront pendus le lendemain par le régime des Mollahs. Donc ça, c'est une obligation. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il crève d'envie de retourner dans son pays natal, mais il ne peut pas le faire. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que lui, sa maman, Farah Diba, qui est très connue par les Français, par la génération de nos mamans, qui a été aimée, qu'on appelle la mère de notre nation, elle a consacré sa vie à l'Iran, même après l'exil, même après le décès de son mari. Donc c'est quand même une famille aussi, aujourd'hui, qui a... passer des épreuves. C'est pas comme si on le sortait de nulle part et qu'on se mettait tous derrière lui sans savoir d'où il vient, qui il est, quel était son passé. Et une autre chose aussi qui est peut-être un petit peu compliquée pour vous, et c'est tout à fait normal et naturel, puisque vous ne suivez pas les infos, les actualités, les livres qui sortent sur l'Iran, c'est que si vous suivez un petit peu nous on le fait beaucoup, les articles des journaux, des livres qui sortent, on se rend compte qu'il y a énormément de mensonges. En français, on dit quand tu veux tué ton chien, tu dis qu'il a la rage. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans les années 70, un autre sens aujourd'hui autour de cette famille, des Pahlavis. Les Pahlavis ont été tombés avec énormément de mensonges. Aujourd'hui, les archives ne sont plus sous scellés. Donc on a accès à des archives dont on n'avait pas accès depuis 47 ans. Et c'est impressionnant de voir comment nous avons été dupés toutes ces années.
Oui. Non, mais c'est hyper triste parce que si vous voulez, Roménie, vous voyez, bon, aujourd'hui il est mort, mais vous voyez toute sa figure et puis son dauphin Roménie, il est, voilà, vous voyez à quoi il ressemble. Ce sont des gens en fait qui ont une vision complètement apocalyptique de la vie. C'est-à-dire que pour eux, il n'existe pas la Terre comme elle est aujourd'hui. C'est une vision du chiisme ultra radicale. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez mourir pour votre religion. Donc, en fait, si vous comparez ça aujourd'hui, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté, avec un régime qui serait amené en transition par Reza Pahlavi, le but, c'est surtout pas de retourner à ce qui se passait avant la révolution. Mais quand tu dis, Sarah, effectivement, qu'il y a
une espèce de nostalgie.
Oui, puis il y avait aussi un aveuglement, c'est que Roménie, c'est un homme, quand il est arrivé de France, affrété par Air France, à Téhéran, sur l'asphalte de Téhéran, il y a des journalistes qui l'ont dit « Qu'est-ce que vous ressentez après tant d'années d'exil au retour au pays ?» Voilà. Quelqu'un de normal qui rentre chez lui, je ne vous dis pas comme le pape de baiser la terre, bon, j'en sais rien. Bon, je ne sais pas comment vous faites après vos vacances quand vous rentrez en France, mais bon, moi, personnellement, je me sens bien, je suis contente. Lui, il a dit « Je ne ressens rien. » Je ne ressens rien.
Et il l'a répété deux fois.
Et il l'a répété. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, pour lui, ce n'est pas le problème, l'Iran. Sa révolution, il aurait pu la faire ailleurs. Le problème, c'est que cette personne a été reçue par Jean-Paul Sartre, a été reçue par toute l'intelligentsia française et occidentale. Donc, le chat de l'époque, il n'a pas été... il n'était pas un homme... c'est pas seulement que les gens... Il a été lâché par les puissances. C'est-à-dire qu'on a Valéry Giscard d'Estaing, on a Carter, on a les Américains qui, au même moment, ont décidé que ce leader, il était trop fier de son pays, il était trop indépendant. Il y a évidemment la question du pétrole. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir contrôler cet homme et avoir accès au pétrole iranien ? Parce que l'Iran, c'est une des grandes puissances pétrolières. Donc, dans le doute, est-ce qu'on peut contrôler cet homme ? Pas vraiment. On a cette espèce de leader Roménie qui, certes, est un peu bizarre, mais bon, c'est leur culture. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la culture persane. C'était un radical extrémiste chiite, religieux. Pourquoi pas ? Donc en fait, c'est à la fois quelqu'un qui voulait moderniser le pays, peut-être trop vite. Voilà. C'est la personne qui a quand même donné le plus de droits aux femmes en Iran. Vous voyez les femmes en Iran aujourd'hui. Donc voilà. Le but, ce n'est pas de revenir en arrière. Le but, c'est d'observer une situation actuelle sans... l'aveuglement idéologique. Aujourd'hui, vous avez des centaines de milliers de gens qui crient un nom. Ils pourraient en crier un autre.
Mais ils n'ont que celui-là.
Et je dirais que c'est peut-être un peu ça. Ils n'ont peut-être que celui-là. Pourquoi est-ce que nous, occidentaux, on va saper cette confiance, cet espoir en disant « il n'est pas assez comme ci, il n'est pas assez comme ça ». Je comprends, étant donné l'histoire. Mais je pense que vraiment, moi, mon pays a une dette envers l'Iran. On a affrété un avion pour faire voyager un tyran qui a pendu des centaines de personnes et dont l'héritier aujourd'hui a tué en 3 jours pratiquement 40 000 personnes. Donc la moindre des choses, je pense, c'est vraiment d'ouvrir les yeux et de se dire, nous, on vit dans une démocratie, quand on est chez nous, on est content, on est libre. Ça, on peut quand même accorder aux gens le droit de crier un nom librement dans la rue et de croire dans une transition démocratique autour d'un personnage, autour d'un leader.
Sachant que toutes ces peurs d'après la révolution, de la révolution d'aujourd'hui, je parle de se retrouver comme le Libye, comme l'Irak, comme d'autres pays, nous avons justement cette chance d'avoir cette personne qui pourrait permettre à ce qu'on ait un gouvernement derrière. Il a déjà un programme qui est écrit et nous ne voulons pas louper cette chance.
Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage qui s'intitule « Les Iraniens en Europe, le cri de la liberté ». C'est un reportage d'Arte Regard et qui parle du regard de la diaspora. Donc là, on en a parlé déjà et de cet espoir avec Pahlavi, mais aussi des dissensions et des avis différents au sein de la diaspora iranienne.
Après son entretien avec Marc Weitzman, Charla Shafik a rendez-vous dans un autre quartier de la capitale. Depuis plusieurs semaines, l'autrice est tourmentée. et a du mal à trouver le sommeil. Elle met tout en œuvre pour attirer l'attention sur le sort de la population iranienne et encourager la cohésion entre ses compatriotes exilés à Paris. Une amie de longue date lui a fait part de la violente altercation qu'a subie Najla Nazarian lors d'un rassemblement à Paris fin janvier. La jeune iranienne s'est installée dans la capitale il y a seulement 2 ans. Bien qu'elle n'appartienne à aucun groupement politique, elle a été prise à partie par d'autres manifestants pour avoir brandi le drapeau iranien historique, arborant un lion et un soleil. Pour certains opposants à la dynastie Pahlavi, il s'agit d'un emblème de la monarchie. Après la révolution islamique, ce symbole, vieux de plusieurs siècles, a été remplacé par une forme stylisée du mot « Allah », instauré par la République islamique.
Zorejan, dis-moi ce qui est arrivé.
Je suis allée devant le Panthéon samedi. C'est toujours là que les manifestations ont lieu. J'avais un ancien drapeau iranien sur moi, celui d'avant la révolution islamique avec le lion et le soleil. Au bout de seulement quelques minutes, 2 Français sont venus me dire que ce n'était pas le vrai drapeau iranien. Mes amies françaises leur ont répondu « Vous n'allez pas dire à une Iranienne à quoi ressemble le drapeau de son propre pays ?»
Elles t'ont aussi interdit de crier le slogan « Femme, vie, liberté », non ?
Oui. En plus, l'une d'elles m'a mis la main sur la bouche pour me faire taire.
En affirmant que ce n'était pas le drapeau iranien ?
Oui.
C'était une Française ?
Une Française et des Iraniens. Ils disaient que ce n'était pas le drapeau iranien et que je devais l'enlever. Mais j'ai refusé de le retirer. Je leur ai expliqué que je portais la voix des enfants de l'Iran. Des Iraniens se sont fait tirer dessus juste parce qu'ils avaient essayé de brandir ce drapeau.
C'est important qu'on se parle entre nous. Comme je l'ai dit à Zoré au téléphone, il faut qu'on trouve le moyen de mettre fin à cette pression et à toutes ces futilités qui masquent le fond du problème. Ces débats secondaires nous éloignent du vrai sujet.
Pour moi, la grande différence entre les Iraniens de l'étranger et ceux de l'intérieur, c'est que là-bas, les gens essayent de faire tomber la République islamique tous ensemble. Ils ne mènent pas de combat idéologique. Quand quelqu'un sauve une autre personne des chiens de garde de Khamenei, il ne lui demande pas en qui elle croit ni quelle est son idéologie. À l'intérieur du pays, les Iraniens font front commun. Quel que soit l'endroit où on vit dans le monde, on doit agir à notre échelle. Peu importe à quelle idéologie on appartient et quel modèle on souhaite après la libération. À l'heure actuelle, le plus important, c'est qu'on réussisse à faire tomber la République islamique et que ceux qui ont tué nos proches répondent de leurs actes. On doit secourir les personnes emprisonnées qui risquent d'être exécutées à tout moment. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir, même si certains gestes nous semblent insignifiants.
Voilà pour ces différents extraits de ce reportage « Les Iraniens en Europe, le cri de la liberté » sur Arte, dans la section Arte Regard. Donc la première partie des extraits, je trouve qu'elle montre bien ce que vous nous disiez tout à l'heure, nos stéréotypes et nos clichés et notre regard anti-monarchiste sur le sujet. Et la deuxième partie aussi intéressante où on voit que la diaspora est parfois aussi peut-être divisée sur le sujet. Qu'est-ce que vous ressentez là-dessus ? Et qu'est-ce que ça vous évoque, ces extraits qu'on a entendus ?
Vas-y.
Moi, je suis française, démocrate, donc j'adore parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais là, on n'est pas dans un dialogue démocratique, en fait. On n'est pas dans un dialogue où je pense que... Je ne sais pas, par exemple en Iran, un des gros problèmes, c'est l'écologie. Le régime de Mollah a asséché les fleuves, etc. Donc après, il va y avoir des débats politiques sur comment on restaure la biodiversité, comment on change. Tout ça, ce sont des débats qui vont avoir lieu dans un contexte démocratique avec des gens qui ont des sensibilités différentes. Par contre, ce que vous dites, en fait, c'est des gens qui sont radicalement contre votre liberté d'expression. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, l'Iran, c'est un drapeau comme ci, comme ça, ça veut dire que toi, en fait, tu n'existes même pas dans ton identité. Alors, la querelle autour des drapeaux, je pense qu'elle est, c'est pas la première, c'est pas la priorité, mais c'est quand même hyper symbolique. C'est-à-dire que nous, en France, on a eu la fleur de lys. Après la Révolution française, vous voyez bien qui voulait revenir à une fleur de lys. Donc, aujourd'hui, on a des échanges qui ne se font pas entre démocrates et non-démocrates. Évidemment que la diaspora, il y a des diversités politiques très fortes, mais il y a aussi dans la diaspora des personnes qui, par définition, et là je pense vraiment aux formes les plus radicales d'islamo-marxistes iraniens qui sont à Paris, par exemple, et qui, eux, portent un discours qui n'est pas démocratique. Ils veulent le retour à une dictature religieuse et marxiste en Iran. Et avec ces gens-là, alors je ne sais pas si c'était eux, mais il n'y a pas moyen de parler. Voilà, donc je pense que nous, il faut qu'on fasse attention, nous, Français, parce qu'on se dit, tout le monde a le droit de penser les choses, on est dans un contexte démocratique. Mais elle s'arrête, la démocratie, quand certains vous retire le droit d'exister et de penser différemment. Et je pense que la querelle autour du drapeau, elle est très importante. Il y a eu des très grosses manifestations samedi dernier à Munich, en Allemagne, à Toronto, au Canada et à Los Angeles, aux États-Unis, avec des centaines de milliers de personnes. Ils ont brandi ce drapeau du lion et du soleil, qui est un drapeau magnifique, qui est coloré, qui a une histoire, qui a une charge émotionnelle. Vous le comparez avec le drapeau noir en écriture, je ne sais pas, c'est pas iranien. Bon, voilà, ça c'est mon point de vue, mais c'est plus qu'un symbole. Voilà, c'est ça la question.
Et puis, je rajoute à ça que ces querelles existent aussi en Iran. Et je pense que c'est tout à fait naturel. Je pense que même autour de cette table, si ce soir on doit décider de ce qu'on va manger tous ensemble, on pourrait ne pas être d'accord sur le resto où on va manger. Et pour des choses aussi simples. Donc, c'est tout à fait naturel qu'il y ait des querelles. Moi, ça ne m'inquiète même pas. Par contre, on voit quand même que la majorité des personnes à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays sont quand même autour du même symbole, du même drapeau et de la même personne. Parce que même à l'intérieur, j'entends et je suis beaucoup de podcasts qui sont enregistrés en Iran. Donc, je vois que ce sont des questions que les gens se posent tous les jours, en fait, autour de ces sujets.
Bah, moi, j'avais du coup aussi une question sur l'autre partie dont on entend beaucoup parler dans les médias, donc la question du nucléaire et la présence de Trump. On sait qu'il a fait des déclarations en soutien aux protestants. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'acte envers les protestants clairs. Cette présence américaine, elle est perçue comment par les Iraniens ? Est-ce qu'il y a quand même une forme d'espoir ? Elle est attendue ?
Elle est attendue. Et limite, j'ai envie de dire que les gens sont très déçus de ne pas voir d'actes. Parce que quand ils ont entendu l'aide arrive, beaucoup de personnes pensaient que l'aide allait arriver. Quelque chose allait se passer dans les 3-4 jours qui suivaient ces déclarations. Et oui, l'aide est attendue. J'ai envie aussi de dire que... une intervention extérieure ne veut pas forcément dire des bombardements massivement sur l'ensemble du pays. Une intervention extérieure, ça peut être fait de diverses manières, c'est-à-dire bombarder des endroits très stratégiques, ne pas bombarder, enlever Maduro en plein milieu de la nuit, enlever Ayatollah Khomeini, ça nous fera vachement plaisir. Donc l'aide extérieure peut prendre des formes différentes. Donc c'est trop réductible de dire aussi que oui, les Iraniens sont contents, ils attendent une intervention des Américains, tout en pensant que cette intervention, ce n'est que bombarder des civils, tuer des tas de gens.
Surtout que là, il y a quand même eu au moins 40 000 morts. C'est-à-dire qu'en fait, on vous lie les mains dans le dos, on vous tue, on vous... Voilà, je vais pas aller plus dans le loin, mais c'est voilà, beaucoup de violences sexuelles aussi dans les prisons, sur les femmes notamment. Et il faudrait, au nom de la non-ingérence, attendre que les gens se soulèvent tout seuls. Mais ils ont déjà essayé de se soulever tout seuls. Le problème, c'est qu'en Occident, enfin en tout cas en France, c'est vrai que le comportement très erratique de Trump sur une multiplication de crises et un rapport totalement décomplexé aux relations entre pays, tout ça fait qu'il est très impopulaire dans beaucoup de milieux politiques. Donc imaginez que l'aide puisse venir d'une personne, voilà. Mais en fait, c'est pas Trump, il faut passer au-delà de ça. Trump, c'est quoi? C'est la première puissance militaire au monde face à une dictature qui a tué l'équivalent de la population de Blois en 3 nuits.
On le voit, il y a quand même des navires qui ont déjà été déployés sur les frontières. Il y a le Gerald Ford, donc, qui est un porte-avions, le plus grand porte-avions du monde, pareil, qui est en chemin. En contre-attaque, l'Iran a fermé une partie du détroit d'Hormuz, qui est une zone stratégique au niveau du commerce. Tout ça, c'est aussi des répercussions donc, sur l'économie, l'inflation. Mm-hmm. Est-ce que du coup, il n'y a pas aussi un paradoxe où cette présence impacte négativement la population iranienne?
Franchement, pour impacter plus négativement que ce qu'on était en train de subir, ça va être compliqué, parce que même sans la présence des Américains, j'ai jamais vu les gens acheter des pommes de terre pièce par pièce. Donc, au point où on est, ça ne change pas grand-chose, franchement. Vraiment. Et ça je le dis de la part des Iraniens qui parlent.
Puis c'est un régime qui ne s'arrêtera jamais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu à l'époque d'Obama un accord sur le nucléaire iranien. Et en fait, c'est ce que tu expliquais. C'est-à-dire que l'espoir que ce régime change dans son ADN... Voilà, par exemple, sur la question d'Israël, c'est un régime qui n'accepte même pas l'existence des Juifs au Moyen-Orient. C'est-à-dire que pour eux, ils n'existent pas, ces gens. Voilà, après, vous pouvez être contre pour le respect des frontières. Enfin, après, on rentre dans le débat. Mais c'est un régime qui ne reconnaît même pas l'existence de ces gens au Moyen-Orient. Donc, en fait, comment vous pouvez imaginer que ces gens, demain, parce que vous leur accordez des choses sur le plan économique ou autre, ils vont arrêter de s'armer pour éventuellement détruire leurs ennemis? Et leurs ennemis, c'est vous, c'est nous, c'est en fait l'Occident, c'est les femmes, c'est les gens libres. C'est les gens qui ont envie de vivre en bonne entente avec les autres pays. Je ne sais pas si vous connaissez le film Armageddon avec Bruce Willis, mais c'est des gens qui pensent comme ça, en fait. C'est des gens qui pensent que la fin du monde arrive et que, après eux, le désastre, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez vous dire, voilà, le général Ford, oui, c'est vrai, c'est un gros porte-avions, ça fait peur, c'est bizarre. Mais en fait, moi, je trouve que c'est plus un élément de pression énorme qui peut-être peser, non pas pour obtenir un changement ou un arrêt des travaux du nucléaire iranien, parce qu'à mon avis, le régime ne changera pas sa stratégie là-dessus, mais par contre pour montrer, enfin en tout cas on l'espère, que les Américains sont là pour intervenir. En tout cas, c'est le... Voilà. Et moi, ce que je déplore beaucoup, c'est l'espèce d'attentisme de notre pays, de l'Union européenne, qui certes n'a pas d'armée, donc ça c'est le problème, mais je trouve qu'on est très spectateur. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, est-ce qu'il faudrait envoyer des gens? Déjà, dans les manifestations pour l'Iran, il n'y a pas de Français. Voilà. Moi j'y vais beaucoup avec mon mari, avec Sarah, on monte à Paris, on se bouge, il n'y a pas de Français. Il n'y a pas de féministes. Moi, je suis féministe. Je suis très engagée depuis 20 ans dans des organisations féministes à l'étranger, etc. Il faut se réveiller. Il faut comprendre que là, c'est nos droits à nous. Demain, l'Iran, le régime tombe. Il y aura moins d'attentats dans le monde. Il y aura moins de financement. C'est un régime qui finance la traite humaine, qui finance les réseaux de drogue qui vont...
La prostitution. Dans tout le Moyen-Orient.
Donc, en fait, vous retirez ça, déjà, le monde ira un peu mieux. Voilà, donc c'est pas juste un conflit lointain, on est dans un monde qui est un village. L'Iran, soit c'est un pays effectivement qui est une menace, soit demain c'est un élément de stabilité dans un Moyen-Orient instable. C'est aussi des approvisionnements en gaz et en pétrole, je suis désolée de le dire, mais pour la France, voilà. Et c'est un partenaire hyper important, pro-occidental, qui peut devenir une démocratie. Donc je pense qu'on devrait tous se mobiliser pour eux, mais aussi pour nous, pour notre avenir à nous. Parce que les démocraties dans le monde, ça devient de plus en plus une minorité et une exception.
J'ai juste une dernière question sur le nucléaire, parce que justement dans les médias, c'est ce dont on parle le plus en ce moment avec les déclarations, mais la population, le nucléaire, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une fierté nationale?
Absolument pas. Absolument pas. C'est quelque chose, c'est un gouffre sans fin dans lequel l'économie de pays, entre ça, entre le nucléaire et les proxys, tout l'argent du pays a coulé là-dedans, dans cette grotte vraiment sans fin.
C'est l'Union soviétique. Voilà. On met tout dans l'armée, rien dans les gens.
Complètement. Demain, si le régime d'Iran change, il n'y aura plus d'enfants qui vont mourir de faim au Yémen. On n'en parle pas, tout simplement parce que c'est les proxys de tout l'argent d'Iran part pour nourrir les Houthis au Yémen, et ceux qui ont le pouvoir, le Hamas en Palestine. Si on veut avoir un discours de paix entre ces deux pays, il faut d'abord se débarrasser de tant de haine. Et tant que le gouvernement d'Iran, le gouvernement actuel, est au pouvoir, on ne pourra pas se débarrasser de cette haine et espérer de l'entente entre ces deux pays. Je vais vous donner juste un petit exemple. Toute mon enfance, à partir de l'âge de 6 ans, tous les matins, avant d'aller en classe, de 7h30 jusqu'à 8h, j'ai crié sans savoir où c'était. Mort à l'Israël, mort à la France, mort à l'Occident, sans savoir où c'était l'Occident, qui étaient les Français, tous ces mécréants pour lesquels on a subi des lavages de cerveau toutes ces années-là pour les tuer. C'est-à-dire que Agathe, elle a raison. Cette menace, c'est pas qu'une menace contre l'Israël. Je veux bien que les gens détestent l'Israël et qu'ils soient prêts à tout pour que l'Israël soit puni. Mais
non, moi, je déteste pas.
Non, mais beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, c'est limite criminel que de défendre, même de parler d'Israël en tant qu'un pays, en tant qu'une nation, une nation qui a le droit aussi de se défendre. Ça se fait pas, c'est hyper diabolisé. Mais évidemment, enfin, j'ai expliqué au tout début que de toute façon, on doit se dépasser de la haine pour pouvoir avoir un discours de paix. Et autrement, sachez que si un jour la République islamique d'Iran réussit à se débarrasser de l'Israël, après, ça sera le tour de l'Occident. Tout ce qu'on appelle l'Occident, de toutes ces femmes mécréantes.
Nous, les femmes, nous, en premier. Voilà.
Est-ce que au sein des gardiens de la République, il y a des dissensions? Est-ce que ça se fragilise? Est-ce qu'on a des informations là-dessus ou des...
Oui, dans un conflit de pouvoir. C'est-à-dire que là, ils se rendent compte que la République islamique ne va pas durer très longtemps et il y a des discordes au sein d'eux-mêmes pour choisir celui qui va remplacer l'ayatollah Khamenei, c'est-à-dire le remplaçant de Khomeini, qui a plus de 86 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui vit à 90 mètres sous terre. Mais il y a apparemment des discordes, il y a des conflits au sein de ce noyau dur pour décider est-ce qu'on va on va faire un coup d'État, est-ce qu'on va choisir un de ses fils, est-ce qu'on va choisir un autre mollah. Donc mais on n'est pas vraiment au courant de tout.
Juste une petite anecdote, parce qu'on arrive de Rome, en fait, où il y a des musées magnifiques, et puis l'art romain, c'est beaucoup de statues d'humains tout nus. Voilà, et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'en parlais avec mon mari, qui me racontait qu'en fait, quand le gouvernement italien a reçu les représentants du régime des Mollahs, ils ont organisé des visites de musées, etc. Et ils se sont dit, par respect de la culture iranienne, on va voiler, on va couvrir les statues romaines. Et bien ça, vous voyez, dans cet exemple-là, tout l'aveuglement de l'Occident. C'est pas la culture iranienne de voiler les femmes, de les bâcher sous des vêtements noirs. Et nous, notre culture, au contraire, c'est l'amour de la nudité, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour du corps humain, c'est l'amour des femmes. Donc il y a ce malentendu qu'il faut absolument dépasser, c'est qu'on peut être, voilà, on peut avoir une approche de la religion, on peut être croyant, mais on ne doit pas, nous, renier nos valeurs. Parce que si on renie ces valeurs-là, et si demain on ne soutient pas l'Iran, demain c'est chez nous en fait, que nous les femmes, et on le voit déjà, on peut perdre nos droits, parce que c'est jamais acquis. Donc j'aimerais vraiment appeler à cette compréhension et à écouter tout simplement ce que les gens dans la rue en Iran en ce moment, ils demandent. Je pense que c'est la moindre des choses que de dire, on ne connaît pas trop le contexte, mais voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils disent. Et on peut les soutenir, on doit les soutenir parce que c'est vraiment une lutte du bien contre le mal. Je suis désolée d'être un peu terre à terre, mais dans quelques années, qu'est-ce qu'on dira à nos enfants? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je n'ai pas bien compris. Mais notre démocratie, elle ne s'est pas construite comme ça. C'est des gens qui se sont battus, qui sont morts. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on transmette à nos enfants, c'est cet engagement-là. Qu'on soit dans des associations, qu'on soit prof, qu'on soit à une radio, il faut s'engager là où on peut et essayer de faire un usage de sa raison. Voilà, de sa raison.
Pour terminer l'émission, je vous propose d'écouter un témoignage que j'ai trouvé très fort dans un documentaire qui s'appelle « Voyage interdit au sein de la génération Z iranienne » qui est à regarder et encore disponible sur France Télévisions, le témoignage d'une jeune femme.
Tiens, je veux te montrer un truc, Solène. Regarde la nouvelle trouvaille du gouvernement. Encore une pancarte de propagande sur Gaza. Ça dit « Qui était plus innocent que ces enfants martyrs à Gaza ?» Les mecs brandissent une pancarte pour les enfants de Gaza tout en affamant et en frappant leurs propres enfants ici. D'ailleurs, regarde, personne ne fait attention à l'affiche. On est trop habitué à leurs conneries. Tu peux t'attendre à ce que la semaine prochaine, on nous suggère encore d'aller mourir en martyr à Gaza. En fait, pour eux, le jeune iranien idéal, c'est un jeune iranien mort. Il faudrait qu'on passe notre temps à chialer. Chialer sur les soldats morts, chialer sur nos imams chiites morts, chialer sur le monde qui nous veut du mal. C'est quoi leur problème, sérieux? Tu sais, je respecte les martyrs de mon pays, mais le gouvernement a brisé tellement de jeunes de mon âge qu'on rejette toute leur culture, même les symboles qu'on respectait avant, comme les martyrs. C'est moche.
Ce témoignage, il fait écho à ce que tu disais, Agathe, en début d'émission sur le courant du schisme, où on est dans le sacrifice et voilà, la volonté de commémorer les martyrs. Et je trouvais ce témoignage de cette jeune femme assez fort. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ce qu'elle dit.
Bah, ça parle de tous les sujets explosifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire ça parle du Hamas, ça parle de mourir pour ses idées. On en a un exemple récemment en France, c'est inquiétant. Enfin, le Hamas a été financé pendant des années par le régime des Mollahs, c'est-à-dire qu'ils ont financé les constructions de souterrains, etc. C'est ce qu'on disait, c'était des millions et des millions de dollars investis là-dedans qui ne servaient évidemment pas les gens dans le besoin en Iran. Donc voilà, une culture de la mort. Je vois mon mari, il a son papa qui a fait la guerre Iran-Irak, qui a causé je ne sais plus combien de millions de morts, voilà, qui a été très pratique pour le régime des Mollahs d'engager un combat contre l'ennemi. C'est toujours plus pratique pour contrôler la population à l'intérieur. Son père a perdu son frère sur le front. Voilà, c'est juste un exemple d'une famille. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours dramatique. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, tu peux vraiment le dire mieux que moi, mais le pays a envie de vivre, en fait. Le pays a envie de vivre. Ils ont envie de boire, de faire la fête, d'aller dans des clubs, de voyager, de venir en Touraine, de boire du chinon, de faire l'amour, d'être libre et de ne plus avoir peur et de faire vivre aussi une culture. Voilà. Et donc, je pense que ce soit des régimes, enfin, que ce soit des mouvements comme le Hamas ou d'autres, il y en a plein dans le monde qui vous disent que le salut, il est après la mort. Bah non, moi, je dirais, on a le droit à être un peu heureux maintenant.
Bah complètement, c'est ce que tous les jeunes en Iran veulent, c'est d'avoir les droits basiques qu'on a ici et qu'on ne se rend même pas compte. Il y a quelques jours, j'étais sur une terrasse, il ne faisait pas très très beau, mais il y avait quand même quelques tables à l'extérieur, et puis les gens buvaient un café, une bière, ce qu'ils avaient envie. Et j'avais envie d'aller boire un verre avec une copine, et j'étais prise d'un moment de culpabilité en me disant cette chose si simple, mes amis en Iran sont privés. S'installer à la terrasse d'un bar et de boire une bière. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on est là et qu'on se battra jusqu'au bout. On se fera la voix de ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer pour qu'un jour, les filles dans mon pays puissent sortir sans le voile, sans trembler, sans se dire « Est-ce que quelqu'un va me poignarder dans le dos ?» Vraiment, littéralement, parce que je n'ai pas de voile. Et on ira jusqu'au bout.
Un grand merci à toutes les deux d'être venues à Studio Zef pour cette émission. Pour terminer, je voulais rappeler la projection du 12 mars à 20h30 au Lobis dans le cadre de la semaine L du documentaire de Farhanaz Sharif, My Stolen Planet. Je ne sais pas si vous l'avez vu. non, qui est un documentaire qui a reçu le grand prix du documentaire historique des rendez-vous de l'histoire. Et donc Farhanas Sharifi est née en 79 en Iran. Cette date tombe 3 semaines après la révolution islamique qui impose notamment le port du hijab aux femmes. Et dès sa première photo voilée, elle perçoit la dualité forcée de son existence, une vie publique soumise aux règles du régime et une autre secrète où elle cultive sa liberté. Et le film, c'est un film d'archives familiale, personnelle, et donc on voit voilà, tout ce que vous avez évoqué, la vie, la modernité de la monarchie iranienne de l'époque avant la révolution, et donc je vous conseille d'aller voir ce film le 12 mars au Lobis. Et puis d'ailleurs la marraine cette année de la semaine, elle, est Negareh Hayat, qui est une artiste plasticienne iranienne et qui sera à Blois. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre la semaine, elle, puisque la lumière aussi sera mise sur l'Iran et sur la culture iranienne.
Merci.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Mathilde.
Merci.
Et puis les programmes continuent sur Studio ZEF. Tout de suite, c'est la Rock Setlist. Et bien sûr, vous pourrez retrouver dans quelques jours cette émission en podcast. Et on termine avec une musique. Je te laisse la présenter, Sarah. Tu la présenteras bien mieux que moi.
De Parastou Ahmadi.
C'est ça, oui.
Qui a bravé un petit peu les lois de la République islamique et qui a chanté dans une très belle tenue. Sans voile dans le désert.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
خوش که دلم بند تو مانده عشق گلو بند تو مانده خوش که هوادار تو هستم عاشق دیدار تو هستم بی تو نشستن غم دریاست موج زده زخمی ساحل گم شده در حجم نبودت منتظر ماه مقابل از تو نوشتن خود رویاست شادی یک شوق نهان سایش پیراهن و قلبست چشم تو یک شعر جهانیست از تو نوشتن خود رویاست شادی یک شوق نهانیست سایش پیراهن و جهانیست خوش که بسازه تو برخصم گرم شوی با تب دستم خوش که منم عاشق چشمت خوش که هوادار تو هستم عاشق اینم که همیشه با تو مهیای نبردم کاش که تا آخر دنیا مست به دور تو بگردم پیراهن و قلبست چشم تو یک شعر جهانیست
از تو نوشتن خود رویاست، شادی یک شوق نهانیست، سایش پیراهن و قلبم.